de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Comment réussir une pisciculture? Et nous en parlons avec Kunda Christian, qui est ingénieur agronome et spécialiste en pisciculture. Alors, bonjour. Monsieur Kunda Christian, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne. Je vous dis bonjour, madame. Je m'appelle Ngunda, pas Nkunda, non. Ngunda Christian.
Ok, on va éviter les confusions. Alors, qu'est-ce que la pisciculture?
Oui, la pisciculture, c'est l'élevage de poissons dans un étang. Un étang, c'est un trou aménagé pour l'élevage de poissons.
Mm-hmm. Alors, pour ceux qui veulent faire cet élevage-là, par quoi est-ce qu'ils doivent commencer?
Je pense que nombreux d'entre nous sont ceux qui veulent la pisciculture, mais ne savent pas par où commencer.
Mm-hmm.
Normalement, il faut contacter les techniciens pour pouvoir débuter avec eux et avoir une réussite sur la pisciculture.
Mm-hmm. Et quel genre de technicien? Parce que c'est ça la grande difficulté. Les gens ne savent pas toujours comment s'y prendre par qui. Qui est-ce qu'il faut commencer par contacter?
Oui, il y a un service national d'aquaculture. Il y a un service national d'aquaculture au sein de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture. Et c'est là où nous donnons tous les conseils possibles pour pouvoir réussir votre pisciculture.
Et ça, c'est dans tout
un aménagement de l'étang, la construction des étangs, oui, qui tient compte souvent des types de sols.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, les sols, ce n'est pas dans tous les sols qu'on peut construire un étang.
Mm-hmm.
Il y a des sols argilo-sablonnés, il y a des sols sablonnés, il y a des sols sablonnés limonés, et mm-hmm. tous ces types de sols sont des sols qui ne sont pas propices pour la construction d'un étang.
Mm-hmm.
Parce que la construction d'un étang nécessite des préalables. Il faut construire les digues, il faut fertiliser les étangs, mettre les compostières,
mm-hmm.
et tout ça, ce sont les éléments préalables pour pouvoir élever le poisson dans un étang.
Mais monsieur Ngunda Christian, vous êtes ingénieur agronome et spécialiste en pisciculture, ils sont nombreux ceux qui vous suivent et qui peuvent avoir des questions à vous poser, donc on va y aller par étapes. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler le numéro, hein, c'est 081 890 63 94, si vous voulez poser des questions en direct, ou bien vous pouvez nous envoyer un SMS au 081 070 20 50. Alors on va y aller d'abord. Vous avez dit qu'il y a un service au ministère de l'Agriculture, l'aquaculture, je crois, si j'ai bien noté.
C'est Service national d'aquaculture.
Oui. Alors, est-ce qu'on retrouve ces services dans chaque province?
Oui, il y a des représentations dans chaque province. Les services nationaux, c'est ici au secrétariat général de l'agriculture.
Mm-hmm.
Néanmoins, dans chaque province, il y a des représentations, des divisions qu'il faut contacter.
Donc, il faut des autorisations aussi pour faire ce genre d'étang.
Bon, au fait, autorisation, c'est trop dur parce qu'il y a des privés qui veulent faire leur élevage et consorts.
Mm-hmm.
Et nous les conseillons toujours de contacter un spécialiste en la matière pour pouvoir réussir. Ce n'est pas une mince affaire.
Mmh. Et qui est le spécialiste? Comment est-ce qu'on appelle ce spécialiste-là?
Les pisciculteurs,
ok.
Ah.
Oui.
Ah
oui. Oui, vous avez parlé également des sols.
Oui, je parlais des types de sols.
Le type de sol, lequel est le plus approprié?
Bon, les sols argilo-sablonnés.
Mmh.
Sont les sols appropriés pour pouvoir construire les étangs. Parce que nous évitons la porosité et la cassure des digues.
Mm-hmm. Et on retrouve ces sols un peu partout en RDC ou bien c'est dans des zones particulières?
Non, ces sols-là se retrouvent partout en RDC. Et si vous ne vous retrouvez pas avec un sol argilo-sablonné, on peut avoir des sols argilo-limonés.
Mm-hmm.
Et tous ces types de sols, ça se retrouve partout en RDC. La RDC a la capacité de faire construire les étangs presque partout.
Ok. Alors, monsieur Ngunda Christian, vous êtes ingénieur agronome et spécialiste en pisciculture, nous le rappelons encore une fois. Et nous avons déjà un auditeur qui nous appelle du Nord Kivu. Il s'appelle Jean et il nous appelle de Béni. Bonjour Jean.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, oui. Tout justement, je voulais une préoccupation que j'en ai présentement, parce que nous en avons envisager de faire aussi une activité de pisciculture au niveau de notre concession, parce que je suis allé à l'OTT. Il y a notre directeur qui nous avait acheté un endroit là où il a pratiqué la pisciculture, mais nous manquons l'encadrement. Raison pour laquelle j'avais profité de cette émission pour poser le temps de mon problème. Parce qu'il n'y a qu'une seule espèce de poisson que nous sommes en train de faire élever ici. Il n'y a que les tilapias. Mais nous manquons d'autres espèces qu'on appelle des grands golos. Je ne sais pas comment avoir la semence de ces grands golos. C'est ça ma préoccupation. Quoi.
Monsieur Ngunda.
Oui.
À vous la parole.
Oui, j'ai suivi l'auditeur. D'abord, il parle du problème d'encadrement.
Mm-hmm.
L'encadrement, c'est-à-dire qu'il faut contacter les services appropriés. Hein? Je pense qu'il y a une représentation. À Ben là-bas, il y a une représentation du Sénacoa. Et il faut aller contacter les services appropriés pour pouvoir vous encadrer. Nous formons les pisciculteurs et même les encadreurs sur terrain.
Mmh.
Alors, pour cela, il faudra contacter les services appropriés, les services de Sénacoa, qui se trouvent là-bas aussi, pour qu'ils puissent les encadrer, d'abord sur la construction. Parce que dès que la construction d'un État n'a pas réussi, vous ne pouvez récolter de bons résultats.
Mmh.
Nous devons essayer de ne pas confondre un trou avec un étang. Un étang a des normes bien appropriées pour la construction. Tandis qu'un trou rempli d'eau n'a pas de normes. Hein?
Mm-hmm.
Nous avons des normes très
normes
bien appropriées pour la construction d'un étang.
Mm-hmm. Quelles sont ces normes-là?
Donc, il faut le respect des dimensions des digues. Hein?
Oui.
La construction des compostières pour la fertilisation de l'eau. Un étang ne peut pas être confondu avec une piscine. Hein?
Oui.
C'est-à-dire, avant de fertiliser, avant d'ensemencer les poisons, il faut se rendre compte que mon état n'a pas de porosité, c'est-à-dire il n'y a pas de perte d'eau. Hein?
Mm-hmm.
Et l'évacuation des eaux en cas de crue, hein? De période de crue,
mm-hmm.
pour éviter que au moment de crue, les poissons peuvent traverser les digues
mm-hmm.
hein? Et vous aurez des pertes. Ou bien les digues se cassent et là, il y aura d'énormes pertes.
Oui.
Alors, il faut contacter un spécialiste pour vous construire un étang en tenant compte du type de sol
mmh.
et des dimensions des digues. Les mmh. autres, ils parlent ici d'une ferme. Ils ont acheté quelques hectares de ferme là-bas. Mais
mmh.
il faut voir, est-ce que c'est un milieu sablonné? Est-ce que c'est probable qu'on puisse installer les étangs là-bas?
Mmh. Mais apparemment, ils sont déjà dans l'activité. Il avait aussi une autre question. Il a dit tout à l'heure...
Il parlait de
tilapia.
De poissons qu'ils élèvent là-bas.
Oui. Il voudrait savoir où est-ce qu'il peut avoir la semence des grands golos.
Oui, les grands golos, ça c'est en expérimentation d'abord.
Mm-hmm.
On n'a pas encore beaucoup vulgarisé la culture des golos. Mais les tilapia nilotica, c'est l'espèce que nous cultivons dans tous les pays
mm-hmm.
et qui réussit. Hein?
Mm-hmm.
Les grands golos, c'est encore en expérimentation. On peut le faire. Il y a quelques-uns qui le font, mais ce n'est pas encore vraiment vulgarisé. Ça.
Mm-hmm. Nous avons une autre question, un autre auditeur qui nous appelle également du Nord Kivu, mais cette fois-ci de Butembo. Il s'appelle Salomon. Bonjour.
Oui, bonjour. J'aimerais demander à l'expert psychologue pourquoi les clarias à reproduction artificielle pose toujours des problèmes. Ça, c'est la première préoccupation.
Oui. La deuxième.
Et la deuxième, les clarias, on l'appelle
comme
un poisson.
Mm-hmm.
La deuxième préoccupation est que j'aimerais savoir s'il y a déjà des travaux qui existent en RDC qui classent les espèces de poissons que nous avons dans nos différentes rivières.
Oui.
Monsieur l'ingénieur.
Je peux répondre?
Oui.
Ouais, il parle de clarias, c'est presque la même question que l'autre auditeur venait de poser, clarias, ngolo, poisson-chat. Ça, c'est ce que je dis que nous sommes en expérimentation, en période d'expérimentation pour vulgariser la culture des clarias.
Mm-hmm.
Il n'y a pas encore une grande vulgarisation pour ça. l'unique élevage qu'on fait, qui réussit à tout prix, c'est les tilapia nilotica.
Mm-hmm.
Et ailleurs, par exemple, en Séoul, quand j'étais là-bas, en Corée du Sud, il y a plusieurs espèces qui sont élevées en étang. Il y a plusieurs espèces, et les autres espèces, nous, on n'en trouve pas ici.
Mm-hmm.
Et notre problème, c'est que nous n'avons pas vraiment de laboratoire très équipé pour pouvoir faire l'expérimentation et vulgariser un mode d'élevage quelque part. Bah, c'est ça notre problème.
Mm-hmm. La question de Salomon, c'était aussi
Poussan,
également...
En Poussan, une ville de la Corée du Sud, on a trouvé qu'il y a plusieurs espèces vraiment élevées,
mm-hmm.
parce qu'ils ont ils ont modernisé leur type d'élevage et ils ont vraiment des labos très spécialisés pour ça. Et après une expérimentation, ils peuvent vulgariser un mode d'élevage, c'est ça.
Alors, la question de Salomon, c'était de savoir s'il y a des travaux qui sont faits sur nos poissons à nous ici en RDC, qu'on pourrait, par exemple, un peu plus tard, commencer à reproduire dans des étangs.
Pardon ?
La question de Salomon était de savoir s'il y a des travaux sur nos poissons à nous qu'on retrouve dans nos cours d'eau ici en RDC. Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus ?
Il y a des travaux, nous travaillons sur les clarias. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur les clarias, sur les ngolos,
mm-hmm.
pour que nous puissions vulgariser le mode d'élevage des ngolos dans les étangs.
Donc en RDC, il n'y a que ces deux types de poissons, le tilapia et le ngolo, comme tout le monde, sous ce nom-là que les gens le connaissent.
À mon humble avis, c'est ça.
Ces deux sortes-là.
Jusque-là, ce sont les espèces que nous essayons de lever ici en RDC. Il n'y a pas autre espèce qui a réussi le levage.
Et nous allons prendre un auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Il s'appelle Bruno, mais il y a également Jacques qui est en ligne et qui lui nous appelle de Kananga. Bruno, bonjour.
Ah, bonjour, madame. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que les poissons élevés dans un étang ont le même goût que les poissons qu'on trouve dans l'air milieu naturel? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut élever les dontex qu'on appelle communément les mabundu dans un étang? C'est ça ma préoccupation.
Monsieur Ngunda?
Oui, il parle d'abord des goûts. Les goûts, je pense que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais ce qui est à savoir, c'est que les poissons dans un étang sont nourris d'une manière artificielle, mais les poissons qui sont dans les rivières et consorts, c'est d'une manière naturelle.
Mm-hmm.
Ici, nous utilisons les aliments fabriqués artificiellement, mais les poissons qui sont dans les rivières, le fleuve, sont nourris d'une manière naturelle. Ça, on ne peut pas comparer les goûts.
Mm-hmm.
Peut-être que chacun peut parler de son goût, c'est trouver que les poissons élevés dans un étang.
Monsieur Ngunda, est-ce que vous utilisez des produits chimiques pour dans la pisciculture?
Les produits chimiques, on n'utilise pas les produits chimiques. Dans la fertilisation d'un étang, par exemple, nous utilisons, par exemple, les tourteaux palmistes, les drèches, tout ça pour fertiliser les étangs. Et les produits chimiques, on n'en utilise pas. Nous utilisons les produits naturels pour pouvoir fertiliser nos étangs. Et la fertilisation, c'est pour la production des zooplanctons ou des phytoplanctons qui constituera en premier lieu les aliments pour poissons.
Voilà, nous allons prendre Jacques de Kananga. Bonjour Jacques.
Bonjour madame, bonjour aussi à notre invité M. Ngunda. J'ai une préoccupation.
Bonjour.
Oui, la préoccupation était de savoir... Parce que moi j'ai un étang dans un sol sablonné. Est-ce qu'il est déconseillé de faire un étang dans un sol sablonné? Bon, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a même moyen qu'il puisse nous donner des techniques pour que nous puissions entretenir? Parce que nous avons déjà fait, nous n'avons pas un autre sol, ça c'est un, deux. Et est-ce que la durée de conservation des poissons dépend du type ou bien d'espèce de poisson? Et est-ce qu'on peut conserver pour combien de temps? Ça c'est deux, trois, je voulais terminer par là. Est-ce qu'il faut délimiter le nombre de poissons dans un étang? S'il faut le délimiter, à combien, par exemple? C'était ça, ma préoccupation.
Ok, merci pour vos questions un peu trop pertinentes. Je commence par la dernière, qui demande la délimitation du nombre de poissons dans un étang. Oui, parce que il ne doit pas y avoir surpopulation. Et dans un étang, si nous faisons un élevage intensif, nous utilisons 3 à 4 à 20 par mètre carré. Je pense qu'il me suit. Si vous construisez les étangs, il y a des dimensions bien établies. Et pour pouvoir ensemencer, il faudra tenir compte des nombres de poissons par mètre carré. Et nous utilisons par exemple 3 à 4 poissons, 3 à 4 à 20 par mètre carré, ou 3 à 4 fingerlings par mètre carré. Et ça détermine le nombre de poissons par étang. Et dès qu'il y a surpopulation, nous mettons les prédateurs pour pouvoir limiter le nombre de poissons. Nous prenons quelques prédateurs pour pouvoir éliminer certains poissons afin que le nombre puisse rester un peu intact.
Qu'est-ce que c'est que les prédateurs?
Bon, les clarias, si on les met aussi dans un étang de tilapia, ça constitue des prédateurs aussi. Ça mange les petits poissons là pour pouvoir réguler la population.
Alors,
et l'autre question, c'est quand il parle des étangs dans les sols sablonnés, vraiment, il n'y a rien à vous conseiller. Je peux vous dire seulement que les digues ne vont pas tenir et il y aura toujours ensablement. C'est-à-dire le remplissage de l'étang par les sables. Et le sable, à chaque fois qu'il va pleuvoir, le sable va couler. Et l'eau va peut-être casser les digues. Hein? Même si on met les gazons, tout ça, mais je ne pense pas que les digues formées dans un sol sablonné peuvent résister. C'est ça. Et une question encore, j'ai oublié, c'est la deuxième, je ne sais pas si on peut me rappeler.
Est-ce qu'il est en ligne? Ah, malheureusement, il est parti. Alors, voilà. Combien de temps est-ce que ça prend, par exemple, pour élever des tilapias?
Bon, d'accord. Je vais répondre à cette question, mais je me rappelle maintenant. Il a parlé du temps de conservation. La conservation, si je ne sais pas s'il veut parler de quelle conservation.
Je pense que ça doit être dans l'élevage.
Comment la conservation, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des modes de conservation que vous pouvez utiliser, fumage, séchage ou comment, je ne sais pas.
Non, je pense que c'est quand les poissons sont déjà à maturité dans l'étang. Quand vous commencez la pisciculture, comment est-ce qu'on va les conserver?
Comment préserver quoi?
Les poissons à l'intérieur de l'étang.
Bon, les poissons à l'intérieur de l'étang sont nourris pendant au moins 6 mois. À partir de 3 mois, nous faisons une pêche intermédiaire pour pouvoir peser les poissons qui sont là. Quel grammage ils ont à 3 mois. À 6, on fait les pêches intermédiaires, la pêche intermédiaire à partir de 3 mois, 6 mois. Et à 6 mois, on vide les étangs. Normalement, si les poissons sont bien nourris dans un étang, à 6 mois déjà, on peut vider les étangs et on a des poissons de grande taille.
Que mangent les poissons d'élevage?
Pardon?
Que mangent les poissons d'élevage?
Bon, il y a plusieurs types d'aliments. Les autres donnent des graisses. Il y a des aliments fabriqués ici, en boule, en farine, tout comme ça. Il y a plusieurs types d'aliments.
Allô? Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Et nous allons prendre Gabi qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, j'ai une petite question à poser à notre invité.
Oui.
Oui, pourquoi quand je regarde en élevant les tilapias sur un étang, il y a d'autres espèces de poissons qu'on n'élève pas, mais qui sont un danger permanent pour les petits tilapias. Comment éviter pour échapper ces espèces de poissons qu'on ne met pas sur un étang?
D'accord. Ça, ce sont les poissons qu'on évite à tout moment. Et cela veut nous faire croire que vous avez construit votre étang, vous avez mal construit votre étang, vous n'avez pas introduit de l'eau, mais vous avez trouvé de l'eau que vous avez encadrée. Parce qu'avant de construire un étang, il ne faut pas seulement trouver les milieux marécagés, mettre des poissons à l'intérieur, il peut y avoir d'autres espèces préalablement établies là-bas et que quand vous mettez vos espèces, ces espèces aussi apparaissent. Mais quand vous construisez un étang bon et difforme et que vous-même vous mettez cet étang sous eau, c'est-à-dire l'étang était d'abord sec et après avoir réuni toutes les conditions, vous mettez l'étang sous eau. Là, vous contrôlez la situation de votre étang. Et après la mise sous eau, vous allez maintenant semencer votre étang avec des poissons, avec des alevins que vous avez achetés ou que vous avez amenés d'ailleurs. Hein? Et là, vous ne trouverez pas des espèces prédatrices. Et je parlais avant ici que ce n'est qu'au moment de la surpopulation que vous pouvez utiliser les prédateurs pour pouvoir limiter la population. Sinon, il y aura des disputes sur le plan alimentaire. Et comme nous utilisons des sondes de blé, des sondes de riz, les tourteaux parmi, les farines de poisson, les farines de sang, des tourteaux de farine, plusieurs types d'aliments que nous utilisons là-bas. Et nous utilisons, ces aliments sont calculés en fonction de la population existante dans le temps.
Mm-hmm.
C'est ça. Et s'il y a des espèces qui sont venues d'ailleurs, alors là, c'est que vous n'avez pas contrôlé votre mise sous eau.
Et là, il faut faire quoi? Il faut les pêcher, les enlever de l'étang?
Pardon?
Et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour lutter justement contre ces prédateurs-là?
Contre les prédateurs, nous pouvons lutter par une pêche, mais la pêche là n'est pas vraiment une lutte efficace parce que n'importe quelle espèce peut manger la pas.
Mm-hmm.
Mais nous pouvons lutter seulement en essayant de contrôler notre ensemencement et la mise sous eau d'un étang. Il faut se rassurer que quand je mets mon étang sous eau, il n'y a aucune espèce de poisson qui existe là-bas. L'étang était sec, je mets l'étang sous eau, je laisse cet étang pendant 2 semaines pour la fertilisation et là je contrôle sans pour autant que je mette j'ensemence mes poissons, mes alevins que je vais amener.
Okay.
Et là je vais me rassurer qu'il n'y a aucune espèce prédatrice. Et après cela, je peux amener mes alevins. C'est comme ça qu'on peut contrôler.
Alors, nous avons encore 2 autres auditeurs. Il s'agit de Michel qui nous appelle d'Issiro et de Dr Richard qui lui nous appelle d'ici, de Kinshasa. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Votre question?
Ok. Moi, je voudrais plutôt poser la question à monsieur l'ingénieur. De savoir s'il y a combien de races de poissons qu'on peut élever en RDC, même en dehors de la RDC.
Mm-hmm. C'est juste ça. Voilà, on va prendre directement Richard, puis on va vous laisser le temps de répondre, hein, monsieur Ngouna. Monsieur Richard, bonjour, docteur Richard.
Bonjour madame, bonjour aussi l'invité. Alors,
bonjour monsieur.
Oui, je voudrais savoir si on peut élever les crevettes. Et comment? Je pose cette question parce que quand j'étais à Lukula dans le bas fleuve, je voyais, si je peux dire, les pêcheurs de crevettes retourner les petites crevettes dans l'eau, mais dans des nappes et dans lesquelles on mettait la noix de palme. Voilà.
Mm-hmm. Alors on va commencer par la question de Michel, je crois, qui posait combien de races on peut élever en RDC.
D'accord, merci pour notre auditeur du Siro qui pose cette question. Mais je voulais peut-être lui dire qu'il nous a pris en cours.
Mm-hmm.
Nous avons parlé de ça, que jusqu'à présent en RDC, on est en train d'élever les tilapias et on est en expérimentation pour les clarias.
Qui est le ngolo.
Ça, c'est ce que nous venons de parler. Et dès lors que nous serons avancés dans les recherches, peut-être on aura à découvrir d'autres espèces à élever, ce n'est pas exclu parce qu'ailleurs, là où nous avons été, il y a d'autres espèces qui sont élevées. Et à part le clarias, les tilapias, tout ça, il y a d'autres espèces qui sont élevées ailleurs dans d'autres cieux. Pour nous ici, nous sommes encore dans l'étape des clarias, nous sommes encore dans les tilapias. C'est là où nous avons déjà reçu les tilapias et nous sommes en expérimentation pour les clarias. Et avec le temps, je pense que on pourra peut-être avoir d'autres espèces et vous ne manquerez pas d'être informé pour ça.
Ok, docteur Richard, lui veut savoir si l'élevage des crevettes est
possible. Oui, l'élevage des crevettes, ça, vraiment, je pense que je n'ai pas de mots à vous dire sur les crevettes, parce que même ici chez nous, au Congo, on n'a pas encore essayé cette culture. Et même ailleurs, là où je viens, on n'a pas parlé de l'élevage des crevettes. Seulement, il y a récolte de crevettes par voie que vous connaissez. Et ça, pour parler de l'élevage des crevettes, en tout cas, je me réserve sur ce point.
Alors, on va prendre Gabriel, notre dernier intervenant de cette tranche de Capi Service. Bonjour Gabriel, vous nous appelez d'Issiro, on vous écoute.
Bonjour Capi, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour.
Ma question émane d'une curiosité. Il m'a déjà été arrivé de remarquer qu'après parfois de fortes pluies, loin des cours d'eau, loin des étangs, loin des endroits où il y a des sources d'eau, vous trouvez des petits clarias tombés du ciel. Est-ce que comment notre spécialiste peut nous... Des petits rouleaux. Comment notre spécialiste peut nous éclairer là-dessus?
Si je peux répondre à cette question, il y a des questions naturelles et les questions qui relèvent de notre compétence. Ici, nous parlons de l'élevage des poissons.
Mm-hmm.
On ne parle pas de poissons tombés du ciel comme vous le croyez, mais on parle de l'élevage. Si vous avez une question sur l'élevage, comment élever les poissons dans un étang, je pense que ça, c'est le sujet du jour. Mais pour parler de poissons tombés du ciel, ce que moi, je ne crois pas,
mm-hmm.
alors je n'ai pas vraiment d'avis à émettre là-dessus.
Est-ce que vous ne pouvez pas l'éclaircir pour savoir d'où est-ce qu'ils peuvent venir, ces poissons?
Madame, il y a des phénomènes naturels. Moi, je ne peux pas vous dire. Il m'a parlé d'abord loin des cours d'eau, loin de rivières et consorts.
Mm-hmm.
Comment moi, je peux expliquer l'origine d'un poisson qui tombe du ciel? Je ne saurais pas. Et
okay.
Moi, personnellement, je ne parle pas des poissons naturels. Je parle des poissons qui sont élevés dans les étangs.
Okay.
Mais pour dire les poissons qui sont tombés du ciel, ça, je laisse la voix à Dieu.
Mm-hmm, on va laisser malheureusement Gabriel en suspense sur ce point-là. Et c'est la fin de cette tranche de Capi Service. Merci à vous, Ngunda Christian. Vous êtes ingénieur, agronome et spécialiste d'avoir répondu à toutes nos questions. Et à la prochaine.
Alors, merci beaucoup la radio Capi pour m'avoir eu au téléphone et m'inviter. Je pense que c'est notre métier et je peux seulement conseiller à nos fermiers de pouvoir contacter les services pour pouvoir réussir dans l'élevage de leurs poissons. Il y a certains qui viennent, non, mes poissons ne grossissent pas, mes étangs sont comme ça. Tu as construit ces étangs avec le concours de qui? Hein?
Mm-hmm.
Il faut savoir qu'il y a un service. Comme vous allez chez le médecin, c'est pareil avec l'élevage. Avant de prescrire les médicaments, il faudra qu'il y ait un médecin spécialisé pour pouvoir vous dire il faut faire ça, il faut faire ça.
Alors,
vous faites l'automédicamentation et vous venez pour dire au médecin non, mon enfant est mort parce que je lui ai donné la sirène et consorte. Ça, ce n'est pas le problème du médecin.
Monsieur Ngunda, avant de partir, est-ce que vous pouvez donner un moyen de donner une adresse pour ceux qui voudraient peut-être avoir de vos services un peu plus tard?
Pour avoir les coordonnées, le service national de l'aquaculture, c'est au niveau de Batété, là,
mm-hmm.
au croisement Batété, la boulevard du 30 juin. C'est en face du bureau du ministre de l'Agriculture, son Excellence M. Vassenguez, que je salue en passant. Ouais.
Bon, voilà c'est la fin de cette tranche. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et à la prochaine.
Ok, bien, merci, à la prochaine. Oh,